Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie sur RDIWA 107.5. Alors, en ce dimanche matin, nous sommes trois dans le studio. C'est Fred qui vous parle et on a avec vous Rémi et Axel.
Bonjour tout le monde.
Salut à tous.
Alors, on vous imagine boire le café dans votre cuisine ce dimanche matin et écouter nos jolies voix vous parler du ciel. Du ciel et d'observation, parce que c'est quand même ça notre sujet central. Alors, on en est à l'épisode 43 de l'Étoile polaire, et voilà le sommaire. Alors, on va commencer par le ciel ce soir. C'est un peu la rubrique où on parle réellement de ce que vous pouvez voir, y compris à l'œil nu, quand vous levez les yeux vers le ciel, la nuit. Ensuite, on va vous parler un petit peu, en particulier toi, Rémi, de la comète, qui nous rend visite en ce moment là dans le système solaire et qu'on peut observer, voire photographier.
Elle commence à se montrer, ouais.
Ouais. Ensuite, je ferai un petit complément à l'émission de la semaine dernière sur la science-fiction, parce que à la réécoute, il nous est apparu qu'il y a quand même deux trois petites choses qui manquaient, et en particulier un petit focus sur, on va dire, la science-fiction anti-totalitaire. Et bon, émission assez chargée. Hein. Ensuite, après la pause musicale, Axel, tu nous feras un petit topo sur la pollution lumineuse. Mm-hmm. Donc voilà, un petit rappel sur ce fléau des astronomes, et pas que. Mm-hmm. Et puis une dernière partie, un peu d'exobiologie, c'est-à-dire ce qui s'intéresse aux vivants autres que terrestres, et un peu aux origines de la vie. Et on va parler de la soupe primitive. Voilà pour le sommaire de cet épisode 43. On vous rappelle que si vous voulez nous contacter, le mail de l'émission, c'est astro-rdwa@protonmail.com. Et qu'il y a le podcast de l'émission sur le site www.rdwa.fr. Émission thématique, l'étoile polaire. Les émissions depuis le début, illustrées par de belles photos, y compris celle de Rémi, ouais. Et de l'équipe. Voilà, j'en ai assez dit. On va commencer.
Pas de nous, c'est pas des photos de nous avec nos têtes. Non, photos du ciel qu'on a prises.
Ça serait un peu moins intéressant. Ouais, c'est sûr. Alors, on va attaquer par le ciel ce soir. Moi, je vais commencer par une description un peu rapide des constellations. Au moment du coucher du soleil, quand même, on peut observer, moi j'aime bien, vraiment, donc au nord-ouest, mais le cygne qui se couche. Mmh. Vraiment au moment où...
La fin du ciel d'été.
Ouais, c'est assez joli, il plonge là vraiment avec la Voie lactée vers le couchant. Sinon, ce qui domine un petit peu le ciel, c'est ça qu'il y a une grande partie grand ours, la grande ours là qui est en mode point d'interrogation.
Vertical.
Ouais. Ouais, vertical.
Se dresse, ouais.
Voilà, avec en face Cassiopée, le cocher. Et puis, toute une partie quand même, donc au zénith, voilà, sous le cocher, on a le taureau, enfin vers le sud, quoi, mais qui est quand même bien là. On parlera des planètes après. Je mentionne quand même que dans le taureau, juste à côté, donc d'Aldébaran, là, si vous prenez une carte du ciel, le V du taureau, il est quand même remarquable. Et la corne du V du taureau, c'est cette étoile orangée qui s'appelle Aldébaran, qui est relativement brillante. Donc, à côté, il y a cet amas un peu nébuleux des Pléiades, hein, qui est bien connu. Et c'est à côté d'Aldébaran que vous trouverez la planète Mars en ce moment. Donc, gros point rouge aussi. Donc, s'il y a deux points rouges quelque part dans le ciel, vous pouvez vous dire, tiens, le plus gros, c'est Mars, et le plus petit, je dois être à la pointe du V du taureau. Ça peut vous permettre de repérer cette constellation. Visuellement aussi, en ce moment, ce qui est extrêmement repérable, bien sûr, c'est Orion. Alors, on a l'habitude de ces trois étoiles, là, la ceinture d'Orion, que beaucoup de personnes connaissent.
Les trois étoiles alignées.
Les trois étoiles alignées, avec la nébuleuse d'Orion qui est juste en dessous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous prolongez ces trois étoiles, donc elle donne une direction, et si vous regardez par rapport à l'horizon, elles descendent, on va dire, en bas à gauche. Et vous suivez cette direction-là, et là, vous tombez sur l'étoile la plus brillante du ciel, qui est Sirius, dans la constellation du Grand Chien. Alors, la constellation elle-même n'est pas forcément super... Enfin, elle est moins marquante que celle d'Orion, remarquable. On va dire. Mais en tout cas, l'étoile est quand même... Et puis cet alignement avec les trois étoiles d'Orion, c'est quand même un des alignements remarquables du ciel. Et c'est une façon simple de commencer à rentrer dans la carte du ciel. Parce que quand on cherche à apprendre les constellations, en réalité, et le ciel, on est un peu seul avec sa petite carte quand on n'a aucun repère. Et si on peut avoir un début... Ça permet ensuite de plus facilement retrouver les formes petit à petit qui sont à côté. Quoi. Voilà. Et puis, si, ce qu'on peut quand même noter, donc là, je parle du ciel de début de nuit, mais que quand même, en deuxième partie de nuit, il y a le lion qui se lève. Mmh. Et bon, ben là, c'est toujours un beau spectacle. Voilà, moi, ce que j'avais à dire sur ce ciel.
Ouais. Les planètes.
Les planètes, les planètes. Allez-y. Vas-y.
Les planètes, c'est la fin avec le signe aussi, la fin de Jupiter, qui se couche de plus en plus tôt. Par contre, on a Mars qui est très haute, comme tu disais, à côté d'Aldébaran.
Pas loin du cocher aussi. Ouais. Il y a Capella qui brille.
Tu voulais nous parler de Vénus.
Bah oui, on a Vénus qui remonte en ce moment. C'est assez plaisant. Au coucher de soleil, si c'est assez dégagé sur le sud-ouest, là. Il y a un beau spectacle avec Vénus et Jupiter.
Pas loin derrière.
Ouais. Pas loin derrière. Sur cette heure-là, là où le soleil se couche, là, vers 6h moins le quart en ce moment. Là. On voit bien les trois planètes qu'on a ici avec Mars et puis la Lune en ce moment précisément. Ouais, on va avoir des belles conjonctions aussi de planètes. Un peu plus tard, quoi, mais on a déjà une bonne conjonction avec Jupiter au 1er mars, quoi.
Jupiter-Vénus ?
Jupiter-Vénus, ouais.
Ah oui ?
Ça bouge vachement vite, quoi.
Ok.
En ce moment, ouais, l'autre fois, j'ai levé la tête, j'ai vu Vénus, je me dis, ah ouais, ça monte vite, ouais. Les autres s'écartent,
ouais. Ok, mais ça, c'est sûr que Jupiter-Vénus, c'est quand même deux gros phares, quoi.
Bah ouais. Oui. C'est ce qui brille avant qu'il fasse nuit. On les voit les trois.
Oui, on les voit déjà.
Ouais.
Et puis, sinon, après, on peut parler de l'actu du ciel ce soir, de la star. J'aime bien utiliser ce mot. l'invité d'honneur, la comète, le nom.
Comète.
C'est 2022 E3 ZTF.
Ah, quelle poésie.
Aussi appelé ZTF, du coup. Voilà. On oublie les chiffres.
ZTF.
Donc on a effectivement une petite comète qui est venue, qui vient nous rendre visite en ce moment. Alors on peut en profiter pour rappeler ce qu'est une comète.
Les comètes, c'est des petits objets flottants dans l'espace, dans le système solaire, qui viennent a priori de la frontière du bout du système solaire, qui est le nuage de Oort. Et c'est des corps surtout glacés, composés de poussière, mais surtout de glace. Et de temps en temps, en se percutant, par exemple, ou d'autres jeux de mécanique cosmique, orbitale et de hasard, une va se retrouver à changer son orbite, à se rapprocher du Soleil. Et arriver assez près du Soleil, elle commence à fondre, même à se sublimer, ça passe de glace à gaz directement.
Sans passer par le liquide.
C'est ce qui fait la queue de la comète.
Et voilà, et en fondant, en gros, en se sublimant, elle laisse une traînée de un petit nuage de sa composition. Et celle-ci, d'ailleurs, est un peu verte parce qu'elle dégage surtout du carbone, je sais plus le nom exact, du dicarbone, enfin du C2, qui lui donne cette couleur verte, que j'ai pas vu aux jumelles. J'ai pu l'avoir
pas encore. Il y avait trop de lune pour l'instant, mais
ça se voit dans les images. Ouais, mais...
Alors je voudrais quand même juste compléter par rapport aux comètes. Effectivement, elles viennent au système solaire, mais la spécificité d'une comète, c'est qu'elle est périodique.
Oui.
Quand même, c'est une de ses caractéristiques, c'est que en fait, elle est piégée dans un jeu gravitationnel avec le Soleil.
À se rapprocher, et puis à s'écarter.
Elle va venir passer près du Soleil, où effectivement elle va perdre de la matière. Donc de toute façon, dans ce jeu-là, au bout d'un moment, elle va se désagréger. Mais elle peut faire quand même un certain nombre de passages. Et ensuite, elle va repartir se perdre au fin fond du système solaire, puis revenir. Et donc, selon la trajectoire de la comète et son origine, Il y a aussi certaines comètes qui peuvent venir de la ceinture de Kuiper, de plus près, donc avoir du coup des périodes plus courtes.
Mais oui, on a ces comètes, des comètes célèbres comme celle de Halley,
par exemple,
celle de Hale-Bopp.
Hale-Bopp, voilà. Donc
il y a plein de Halley... petites comètes qui ont des périodes très rapides.
Quoi. Oui, voilà. La comète de Halley, c'est combien la...
76 ans.
C'est ça, 76 ans.
Mais moi, j'ai souvenir de l'avoir vue, la comète de Halley, mais je devais avoir 7 ans. Je ne me rappelle plus l'âge que j'avais.
Je crois qu'il y a eu Hale-Bopp en 97.
C'est après Hale-Bopp, c'est bien après.
Halley, c'est 97, il me semble.
Non.
C'est bien.
C'est les années 80.
Oui, je crois que c'est ça. Hale-Bopp. Il y a une avec un nom japonais dans les années 90.
Ah oui, oui, il y en a une.
Le nom ne revient pas, mais un nom japonais.
Enfin voilà, et donc d'avoir ce souvenir enfant, tu vois, de voir la comète de Halley et de me dire, voilà, si je suis encore vivant, genre ça me fera plus de 80 ans, je la reverrai. Mais ça, c'est un délire.
Oui, alors ça, c'est les comètes qui ont des périodes courtes. Mais il y en a des beaucoup plus grandes.
Ça peut être 10 000 ans. Celle-là, d'ailleurs, je crois que c'est le cas. C'est 30 000 ans.
Celle dont on parle, ZTF, là, c'est... Alors, c'était 50 000 ans, son dernier passage. 50 ans, à peu près, ça peut aller à 75 000, même, pour les plus grandes estimations. Et par contre, là, en passant près du Soleil, il y a eu un phénomène d'assistance gravitationnelle. Elle a accéléré. Et du coup, l'excentricité de son orbite, c'est ouverte.
Ouais.
Ça l'a propulsée. Et du coup, elle va partir, elle va sortir du système solaire.
Elle reviendra
jamais.
Pas, ouais. D'accord, okay.
Elle va peut-être un jour arriver dans un autre système solaire.
Il y a eu un jeu avec Jupiter ou Saturne ou un truc.
Quelque chose, ou le Soleil même.
Ouais. C'est pour ça qu'elle s'appelle la C2022, d'ailleurs. Les comètes classées C, elles ont une période de plus de 200 ans. Quoi. Et les autres comètes qui reviennent tous les moins de 200 ans, ils sont classés P. En C, il y a aussi des comètes qui n'ont pas de période, quoi, qui ne font passer qu'une seule fois. Et... Voilà, les trajectoires, les gravitations des autres planètes ne permettent pas d'avoir une trajectoire. Quoi.
Et alors sa position dans le ciel.
Alors voilà, moi j'ai essayé de repérer ça et donc là, ces derniers temps, elle était autour de la petite ours, juste à
près
côté
de l'étoile polaire, pas très loin de l'étoile polaire.
Alors moi là, quand je l'ai observé, c'était plutôt près des étoiles du bout de la casserole de la petite ours.
Mais c'était il y a quelques jours.
Là, ouais.
Parce qu'elle monte vite.
Ouais.
Elle est dans la girafe déjà. Okay. Elle est entre.
Au-dessus de l'étoile polaire.
Au-dessus de la polaire. Et elle se dirige vers Capella.
Ouais,
et vers Mars en réalité.
Ouais.
Aussi. Et aussi sur la pointe d'Orion, justement.
Donc après, elle va aller vers là. Donc en fait, si vous arrivez à repérer cette ligne-là dans le ciel, rien qu'avec Capella en fait, là, et Mars, déjà, ça fait une ligne qu'on peut prolonger et on sait que ça va vers là.
Vers le nord.
Et après, il faut la chercher aux jumelles, parce qu'à l'œil nu, là, en ce moment, surtout avec la Lune...
Et oui, voilà. Alors, à l'œil nu, là, quand on enregistre cette émission, on est début février, et la Lune n'est pas encore pleine, mais elle illumine déjà beaucoup. Alors, peut-être... par contre, elle a passé le point le plus proche de la Terre. Depuis le 1er février, elle était au point le plus proche de la Terre. Maintenant, elle va s'éloigner.
Mais bon, une fois que la pleine Lune sera passée, on va avoir en début de nuit...
Elle était quand même à 40 millions de kilomètres. Elle n'était pas à côté, mais...
Non, mais en tout cas, on peut l'avoir.
En tout cas, moi, aux jumelles, là, j'ai observé ça au 7,50. Il y avait clairement une grosse nébulosité. Enfin, c'était quand même assez étendu, quoi. Et c'était net. Enfin, qu'il y avait un truc. Donc, après, pour être sûr, j'ai regardé sur une carte du ciel s'il n'y avait pas un gros objet un peu messier dans le coin, mais ce n'était pas le cas. Donc, clairement, c'était la comète.
Oui, on dit qu'elle prend 2,5 degrés.
En fait, elle se déplace vite, ouais.
Elle se déplace vite, ouais. Elle se déplace à peu près de 50 secondes d'arc.
Mais elle
par
va
heure.
Ralentir, en fait. Dans un mois après, elle fait une espèce d'arc où elle va. Ça doit être dû à la direction de sa trajectoire par rapport à la Terre et la projection.
C'est toujours une histoire
quoi.
De perspective.
Ouais.
Et elle a aussi une trajectoire, là, on peut voir sur les simulateurs, là. Elle n'est vraiment pas sur le plan du système solaire, quoi.
Ouais.
Elle est vraiment au-dessus. Presque en perpendicularité.
Ben c'est ça aussi ce qu'on disait, la particularité aussi de ces comètes lointaines là, qui viennent du nuage de Oort. C'est que comme ce nuage de Oort, il est vraiment sphérique, les trajectoires, du coup, elles peuvent venir de n'importe quelle direction. Il n'y a aucune direction privilégiée, ça peut traverser le système solaire, même à la verticale, il n'y a pas de problème. Alors que sur une comète qui vient de la cimetière de Kuiper, qui, elle, est quand même dans l'anneau, on va dire, gravitationnel,
dans le plan du système solaire.
À partir de... Ouais, alors même si tu prends Pluton, qui a été déclassé...
Pareil, qui a un orbite différent.
Comment est-ce qu'on peut déclasser une planète ? C'est quand même étrange. Moi, c'est ça un truc qui m'échappe.
Mais bon, passons. Mais c'est un autre débat.
D'ailleurs, cette comète ZTF, le début de son nom, 2022 E3, c'est-à-dire qu'elle a été découverte en mars 2022. Ouais. Et à la première détection, on a cru que c'était les scientifiques ont cru que c'était une planète mineure. Mmh. Et puis ensuite, en voyant un peu comment elle se comportait, ils se sont dit non, c'est une comète. Mais et donc, ça aurait
été. On parlait d'un kilomètre, non, de diamètre.
Ah, j'ai pas trouvé.
Il me semblait que c'était pas énorme, mais bon.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on... activité
comme. Du coup, elle a aussi été déclassée de planète mineure à comète.
Mais on peut quand même mentionner que ces histoires de planètes mineures, mine de rien, je pense que c'est un sujet qui, en astronomie et en planéto, va prendre de plus en plus d'importance, parce que je pense que. Plus ça va, plus on voit qu'il y en a vraiment plein.
Oui,
en fait.
Énormément d'objets.
Qu'il y en a plein. Et que nous, là, on en est au stade où on cherche des planètes, des exoplanètes. Enfin, on trouve des exoplanètes de plus en plus loin. Mais en fait, on réalise aussi que dans notre système solaire, on découvre de plus en plus de corps qui ont quand même plusieurs dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres de diamètre. Et qu'il y en a quand même beaucoup. Et comme ils sont petits et sombres, on a du mal à les détecter. Mais à mesure qu'on améliore les systèmes de détection, on en voit de plus en plus. Quoi. Donc, et ça, c'est clairement des petits milieux. Aussi. C'est aussi des petites planètes où on ne sait pas quel environnement peut se développer là-dessus. Mais oui. Ça ouvre encore toutes les questions et ça multiplie encore les chances de tomber sur des surprises incroyables de combinaisons chimiques et de conditions physiques qui créent des trucs un peu exceptionnels. Quoi. Donc bon, on verra tout ça.
Ah, c'est pour ça qu'il y a des sondes qui vont s'y poser.
Ouais, c'est ça.
Prélever tout ça.
Alors voilà, pour cette comète, qu'est-ce qu'on avait ? On avait autre chose à
des comètes, dire moi je voulais rajouter, ouais. Des comètes, on en a référencé 3700, autour de 3700-4000.
Quand même.
À l'heure actuelle, ouais. Ouais. Ça en fait des objets qui transitent par chez nous.
Ok, on va continuer. Alors après donc le ciel ce soir, la comète, là vous avez déjà quand même pas mal de choses au programme à observer rien qu'à l'œil nu ou aux jumelles. Paire de jumelles, même si elles sont pas faites pour l'astro, c'est toujours un moyen de voir un peu mieux qu'à l'œil. On va passer à la suite de cette émission et donc là je vais vous parler un petit peu. Donc je vous disais un complément là sur la science-fiction. Donc on avait fait une première partie sur la science-fiction il y a longtemps. Donc c'était l'émission 13. Là, la dernière émission, on avait fait un peu une suite à ça. Et là, je voulais vous faire juste un petit complément sur, on va dire, la science-fiction anti-totalitaire. Mentionner quand même un peu cette tradition qui est dans ce genre littéraire de un peu de gardien de la liberté, d'une forme de... Et oui, d'anti-totalitarisme, quoi, clairement. Et donc, je vais parler de trois bouquins, rapidement. Je veux mentionner absolument quand même 1984, même si on l'avait rapidement évoqué la dernière fois, de George Orwell. Donc ça, c'est un livre qui est paru en 49. Donc 1984, je ne vais pas raconter l'histoire, mais c'est de là que ça vient Big Brother, quoi. Donc c'est une société, c'est de l'anticipation. Une société complètement où tout le monde est surveillé. Il n'y a aucune intimité. Et la base, c'est une espèce de gros ordinateur qui a des caméras partout. Big Brother is watching you. Le grand frère vous regarde, quoi. Donc, quoi que vous fassiez, on vous voit. Tout est contrôlé. Donc, évidemment, au sein de ça, il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans le rouage. Il y a un humain. Il y a une histoire d'amour. Il y a, voilà. Et il y a des choses qui se passent. Et l'humain ne meurt jamais. Et c'est toujours un peu ça, l'espoir... Dans ce type de science-fiction, souvent, c'est que même au sein de la pire des oppressions, le cœur humain n'est jamais mort. Quoi. Donc, ce livre-là, comme 1984, c'est une énorme référence pour plein de gens. Il a influencé plein de choses et il inaugure aussi toute cette société ultra-technologique où, de fait, le traçage technologique est de plus en plus omniprésent et qui a pris clairement une ampleur démesurée avec les smartphones. Ensuite, il y a un autre livre dont je veux parler, c'est Fahrenheit 451. de Ray Bradbury. Ray Bradbury, donc il a publié ça en 53, donc c'est juste 4 ans plus tard, hein, c'est en sortie de la guerre, on est un peu à la même époque. C'est des gens en fait qui anticipent aussi la suite en tenant compte du passé. Et là, Fahrenheit 451, c'est aussi une société totalitaire où là, les livres sont interdits. Et il y a toute une société, on va dire un peu secrète, de gens qui cachent des livres. Donc c'est un crime, hein, puni de mort, et qui se les transmettent et qui les lisent, etc., etc. Bon, évidemment, donc il y a eu un film hein, de Truffaut en 66. Qu'on pourrait qualifier d'intello, hein, c'est l'ambiance Nouvelle Vague, etc. C'est quand même un grand film et qui transmet bien le message du livre. Et alors évidemment, on vient après la guerre, on vient après les autodafés des nazis, on vient après tout ça. Donc le parallèle, il est clair, mais ça va plus loin. On est sur, c'est pas juste, oui, regardez les nazis, c'était pas bien. C'est toutes les dérives totalitaires qui sont dans les sociétés modernes, quoi. Voilà. Voilà pour ces deux livres quand même phares. Et puis je voulais compléter, parler d'un auteur récent en fait, un auteur de maintenant, parce que sinon on a énormément parlé de gens du passé. Donc c'est mentionné quand même Alain Damasio. Alain Damasio, c'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui est français, qui a écrit 3 livres. Son premier, c'est La zone du dehors en 99. Qui était déjà un livre assez, on va dire, politique, d'anticipation, avec effectivement cette idée d'une sorte de muraille, une zone d'or où ne vivraient que des criminels, mais qui est en fait le seul espace de liberté, etc. etc. Et tout un truc, voilà, toute une histoire qui était plutôt pas mal. Ensuite, il a sorti La Horde du Contrevent en 2004. Alors ça, moi, j'avoue que j'ai adoré ce livre. Là, on touche à la fantasy, beaucoup plus. On est beaucoup plus dans quelque chose d'onirique qui touche presque à l'heroic fantasy. Je raconte même pas l'histoire, parce que si ça vous intéresse, vous irez. Mais c'est vraiment un grand livre, avec plein d'innovations sur plein de choses, sur la langue, puis un imaginaire énorme, une belle écriture. Je trouve qu'il illustre aussi ce truc dont on a parlé, qu'on pouvait parfois, dans la science-fiction, être à cheval entre... on va dire la science-fiction et l'heroic fantasy, que la frontière des fois elle était un peu mince. Là on est en plein dedans, voilà. Et il a publié un dernier livre, Les Furtifs. Je suis en train de le lire, donc je ne veux pas vous en dire plus. Et qui en tout cas, pour ce que j'ai vu, est un peu à cheval entre les deux. C'est-à-dire c'est assez politique et assez onirique en même temps. Et en particulier centré sur le monde de l'univers sonore. Il y a tout un travail là-dessus. Et sur la partie politique, je vais en mentionner un peu parce que justement, je trouve intéressant, il est vraiment dans cette ligne d'auteur d'anticipation antitotalitaire. D'ailleurs, Damasio, on peut l'entendre sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou machin, il donne plein de conférences, il est partout, Damasio, en tout cas, il l'a été.
Et il parle de la musique aussi.
Ouais, il fait aussi de la musique, voilà. Et d'ailleurs, son œuvre, La Horde du Contrevent, a donné lieu à plein d'émules. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait... Moi, j'ai eu des spectacles de théâtre inspirés de ça. Il y a des gens qui ont fait de la musique autour de ce livre. Ouais. Ça a été tiré en bande dessinée. Enfin bon, il y a tout un truc qui s'est fait autour. En tout cas, là, dans Les Furtifs, il a toute une partie d'Amasio qui j'ai trouvé assez intéressante d'anticipation par rapport... En fait, il est assez dans la sociologie et dans toutes ces compagnies là qui vendent les informations de tout le monde et qui s'en servent pour... Et là, il part dans un délire où carrément les compagnies... En fait, où l'État vend des villes. L'État vend ses villes à des compagnies privées, type Orange, type Major. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, il explore dans cette veine-là un peu les travers de notre monde en disant « faites gaffe, et si je pousse un peu le trait, voilà ce que ça peut donner ». Et franchement, ça fait pas rêver. Et il parle aussi des modes d'action. On sent que c'est un mec qui a quand même pas... Je sais pas s'il a beaucoup traîné dans les ZAD ou quoi, mais en tout cas, il a dû parler à des gens qui, eux, ont traîné dans les ZAD. Ça, c'est sûr. Et il y a tout aussi une thématique là-dessus qui est assez intéressante.
De comment se monte une rébellion un peu.
À quoi ça peut ressembler une forme de révolte un peu plus avancée sans forcément être prendre les armes, tu vois. Il y a plein de toute une exploration là-dessus que j'ai trouvé chouette. Voilà, je vais m'arrêter. C'était juste mentionner cette partie-là de la SF qui pour moi, est importante et véhicule aussi un certain nombre de valeurs d'ouverture d'esprit, d'une façon large, d'élargissement de conscience. Mmh. Et que l'astronomie, ça fait partie aussi, l'observation du ciel aussi. Voilà. On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver. Qu'est-ce que Rémi, le petit morceau que tu nous as choisi là, ouais, pour cette semaine?
Un petit son là, pour ce dimanche matin. Donc The Truth de Handsome Boy Modeling School.
My modus operandi is carpe diem, whether de facto or de jure. Comprende the people versus you and your sensei. We're teaching that style of wordplay weaker than Wednesday. Regardless of what your friends say, they're all disabled, stricken from the record and deemed inadmissible. While this long arm of the law grabs a mic to shoot dope lines first and ask questions later. The death sentences of this live litigator to close the case tighter than the jaws of a gator. Stenographer to steady logging the jargon that your counselors are barking in hopes of a plea bargain. But when you read back verbatim what they're saying to persuade them, you realize exactly how I play them. I come with the truth, whole truth, and nothing but, cause the truth hurts just as much as fucking with live will. I prove skill with refills from now until plagiarizing them seeds get their flows distilled.
I won't die if you leave me high. I won't.
dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors, on va dérouler la suite de cet épisode 43 avec un thème qui est assez cher aux astronomes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'est la pollution lumineuse. On a déjà eu l'occasion, lors du festival à Marignac Fête les Étoiles, d'avoir une conférence de la part de Ulysse Mariette du parc naturel du Vercors, régional du Vercors, qui était venu un peu nous exposer les problèmes environnementaux, beaucoup plus globaux que juste empêcher les astronomes amateurs d'observer le ciel, mais par rapport aux insectes, et donc du coup la conséquence par rapport à la faune, à la flore, bon, à l'environnement. Aussi, toutes les thématiques qu'on a déjà évoquées dans cette émission, mais c'est un énorme sujet, la pollution lumineuse, en réalité. Alors nous, on y est particulièrement sensibles. On est heureux de voir que sur le territoire du DIY, il y a quand même des initiatives qui sont prises pour éteindre les villages la nuit. On voit aussi que ça génère des débats, qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui aimeraient qu'on éclaire quand même, etc. Et donc il faut discuter. Ça, voilà, ça ramène à la peur du noir, à plein de choses. Bon, voilà. Donc Axel, tu nous as préparé un petit... Tu avais envie de nous parler un peu de ça et on t'écoute.
Ouais. Et ouais, en fait, je vais commencer par de l'actualité très locale. Effectivement, il y avait déjà des villages dans DIWA qui éteignaient leur éclairage public la nuit. Et là, c'est au tour de Di qui vient de lancer ce projet après un an de travail qui était compliqué. J'ai pu discuter avec certains élus qui se sont occupés de ça, et notamment certains moments de concertation avec la population. Et donc là, voilà, décision a été prise. Décision, c'est pas du tout sous la contrainte, mais qui a été quand même influencée par la création d'une réserve de ciel étoilé dans le parc. Je vais y revenir un peu après. Et donc voilà, la ville de Die a commencé depuis la semaine dernière par quartier à éteindre l'éclairage public de 1h à 5h du matin. Donc voilà, 1h quand même qui est pas où peu de gens sont dehors. Et voilà, ça va se généraliser d'ici le mois d'avril, d'ici la fin de ce printemps, à toute la ville de Die, sauf pour l'instant l'axe, la RD 93, donc la grande route, en fait, l'avenue de la gare, le contournement de la ville et qui repart pour... Pour le compte-car, voilà. Pour l'instant, cette route va encore rester éclairée, mais pour la plupart, l'avenue de la gare, par exemple, c'est des éclairages orange qui pointent bien vers le bas, donc c'est pas les plus gênants. Voilà, et donc, alors la réserve de ciel étoilé, est-ce que je parle de ça tout de suite? Oui, puisque ça reste un peu dans le thème. Ça vient d'une association américaine, je crois, qui a pris la responsabilité de labelliser des zones dans le monde où la qualité du ciel est bonne, et aussi parce qu'elle est préservée. Et voilà, c'est des territoires où on va prendre des mesures pour améliorer la qualité du ciel nocturne et minimiser l'éclairage public. Et donc, la première réserve de ciel étoilé, elle est au Canada. C'est la réserve du mont Mégantic, où il y avait un observatoire en plus. Je ne sais pas si c'est encore la plus grande, mais elle est quand même très vaste, et elle comprend une ville, la ville de Sherbrooke, qui compte 127 000 habitants, je crois, 130 000 habitants, donc quand même une grosse ville, beaucoup d'habitants à convaincre. Et, alors qui est sur la périphérie, puisque les réserves de ciel étoilé, ça marche avec une zone cœur, où c'est vraiment zéro éclairage, et c'est très strict, et c'est vraiment un cœur... Je crois que ça doit avoir une superficie minimum, je ne sais plus laquelle. Ensuite, on a une zone tampon, où là, on va prendre des mesures un peu plus sévères que dans la troisième zone, qui est la zone périphérique, là où se trouve Di, du coup, pour celle qui nous concerne, la réserve du parc du Vercors. Ces réserves de ciel étoilé, voilà, il y en a 20 dans le monde.
Il n'y en a pas énorme, au final.
Ouais, il y en a 20,
c'est léger,
ouais. Ouais, c'est ça, il y en a tout pile 20 dans le monde, mais il y en a... la France est assez bien représentée dedans, parce qu'il y en a 4 en France. La première, je crois que c'est celle du pic du Midi, peut-être. Ensuite, ouais, je crois que c'est ça, celle du pic du Midi. Ensuite, on a eu le Mercantour, Millevaches, les Cévennes. C'est ça, ça fait 4. Et on va bientôt avoir les Baronnies, le parc des Baronnies provinciales. C'est souvent impulsé par les parcs régionaux. Et les Baronnies et le Vercors. Et du coup, il y aura tout ce couloir noir. De presque de la côte avec Mercantour, Baronnie, Vercors, pour remonter jusqu'aux Alpes pour toutes les espèces migratrices. Alors, quand on parle de pollution lumineuse...
Juste, Axel, à partir du moment où on parle de réserve de ciel étoilé, juste, je voulais dire, on pourrait se poser la question à quoi ça sert, est-ce que ça c'est... Enfin, comme si c'était... juste pour que les gens réalisent que ce n'est pas une lubie non plus, en fait. C'est de la statistique qui est de dire qu'en Europe, 95%, il me semble plus de 95% des gens ne peuvent plus observer la Voie lactée.
C'est 83%... En France, je crois. Non, dans le monde. 83 dans le monde, le moyen
mondial. Dans le monde, mais en Europe de l'Ouest, on est à il me semble que c'est même 98, enfin un truc comme ça. Donc 83% dans le monde, donc c'est énorme en réalité. Donc c'est juste en fait de se dire, voilà, je ne peux plus observer la Voie lactée. Ça veut dire en fait qu'il y a tellement, il y a trop de pollution dans le ciel. Ces pollutions, elles sont doubles. Il y a d'une part la lumière, évidemment, des villes, etc. Mais il y a aussi la pollution. Et la pollution qui va en plus du coup diffuser la lumière des villes et créer cette espèce de halo orange qui fait qu'on ne voit plus rien. En fait.
Quand on a des particules dans l'atmosphère.
Donc s'il y en a beaucoup, bon, bah, là c'est clair, il n'y a juste plus de ciel. C'est-à-dire que vous vivez dans une zone où de toute façon vous n'avez plus accès à l'observation des étoiles.
Les quatre étoiles au maximum. Quoi.
Et sinon, il y a toute une gradation où vous pouvez quand même voir des trucs, mais par exemple, vous ne pouvez plus voir la Voie lactée parce que la Voie lactée, c'est quand même assez diffus. Mmh. Alors après, pour ceux qui vivent ici, la Voie lactée, elle est flagrante. Oui. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas besoin d'être un professionnel d'astronomie pour repérer la Voie lactée. Mmh. Mais ça nécessite en réalité une qualité de ciel qu'on n'a plus. Donc en fait, réellement... Moi, je trouve que des initiatives comme ça, qui est de dire, là, on va créer une zone, même si elle n'est pas énorme, même si machin, ou au moins de là, on sait qu'on peut continuer à avoir une fenêtre sur le cosmos, en réalité, c'est hyper important.
Mmh. Ah oui, oui.
En fait, c'est...
Et d'ailleurs, l'association qui fait ces réserves, qui labellise ces réserves, ils ont un nouveau projet pour labelliser des sanctuaires, justement, ils utilisent ce mot, dans les villes, alors dans des grandes villes. Essayer d'avoir au moins un petit quartier dans le Central Park par exemple des histoires comme ça où de là on voit le ciel pour commun, même si on est en ville et que de chez nous on voit deux étoiles, on puisse prendre le bus et faire le plein de
rêves.
Il y a un
peu d'obscurité.
Ouais, parce que là c'est clair en fait que pour quelqu'un qui grandit en zone urbaine en Occident et qui passe sa vie, en réalité jamais de sa vie il peut voir le ciel. En fait. Oui. Donc on peut passer une vie entière sans voir une étoile, en réalité, quasiment.
Oui, oui, c'est vrai que nous, ici, on était déjà préservés. Maintenant, il y a des nouvelles mesures.
Est-ce que ça n'a aucune conséquence? Je ne crois pas.
Oui, je pense que c'est important. Ouais.
Non, puis en plus, la pollution lumineuse, elle a d'autres impacts encore.
Il y a plusieurs prismes pour.
Il
y a plusieurs prismes pour s'attaquer à la pollution lumineuse. Nous, on y a accès par l'astronomie. Moi, je me suis intéressé par l'astronomie parce que c'est gênant pour l'observation, pour la pratique. Mais j'ai découvert en creusant un peu qu'il y a plusieurs approches. Donc, il y a l'aspect observation du ciel, rêve, tout ça. Il y a l'aspect écologique dans le sens. Ça va gêner la faune et la flore. Alors on a par exemple en ville des arbres qui vont continuer à garder leurs feuilles très longtemps dans l'automne jusque dans l'hiver parce qu'ils ont un lampadaire d'un côté. Tu vois, t'as un arbre, un lampadaire. Il faut photosynthétiser un peu le lampadaire. Donc tu as la moitié de l'arbre avec des feuilles et pas dans l'autre. Ça va mettre des problèmes de maladie, tout ça. Pour les animaux, pour les insectes notamment, il y a beaucoup de pollinisateurs. Je crois que la plupart des pollinisateurs sont nocturnes. Et ils viennent tous tourner autour des lampadaires, on le voit, dès qu'on allume un truc,
carnage,
l'été,
c'est
surtout l'été, mais on a un lampadaire ou même une lampe sur sa terrasse, et voilà, on a plein d'insectes qui tournent autour, on estime qu'il y a 150 insectes qui meurent par lampadaire chaque nuit l'été, donc ça fait un paquet multiplié sur toute la France. Après, il y a le prisme économique, puisque ça représente en général, en moyenne, 40% des dépenses d'électricité de la commune. Une commune en France. Mais d'ailleurs, l'extinction, ça se généralise quand même, puisqu'il y a plus d'un tiers des communes en France qui éteignent la nuit maintenant. Il y a plus de 12 000 communes sur les 30 000 que compte la France. Et puis, l'aspect énergétique aussi, puisque ça consomme tout cet éclairage nocturne, l'éclairage public, consomme 5 TWh par an, sachant qu'un réacteur, pas une centrale, mais un réacteur nucléaire produit 1 TWh. Donc on a 5 ou 6 réacteurs qui tournent à l'année que pour ça. Donc ils tournent que la nuit, voilà, c'est un peu plus nuancé, mais dans l'idée, c'est quand même un gouffre, un gaspillage d'énergie pour éclairer les murs la nuit. Et c'est vrai que moi, j'ai des réflexes depuis que je ne suis plus en ville, que je me suis un peu écarté du centre-ville. Des fois, je viens à Die et je me dis, vraiment de nuit à 1h, 2h du matin, il n'y a personne en ville à part moi. Je me dis, mais tout ça, c'est éclairé que pour moi, en fait. Et où j'ai eu des réflexes parfois en sortant de chez quelqu'un à Die, d'arriver en haut d'une ruelle et de chercher l'interrupteur pour éteindre derrière moi la ruelle. Ah non, c'est pas... Ah bon, voilà. Alors, les contestations dont tu parlais.
Ouais, il y a beaucoup de.
Souvent, l'argument qui revient vite, c'est la sécurité. On va se faire agresser de nuit, il y aura des cambriolages, tout ça. Et bien, en fait, si on demande aux services concernés, aux services de gendarmerie et autres, ils voient qu'il n'y a aucun changement dans les zones qui pratiquent déjà l'extinction de l'éclairage. Aucun changement sur les cambriolages. Et que déjà avant ça, je crois que c'est 85% des cambriolages ont lieu de jour, quand les gens sont au travail, ou quand quand ils sont à la mer, ils font un selfie, je suis à la mer, et c'est facile, on va chez lui. Ouais. Et c'est plus discret d'arriver devant une porte où tout est éclairé et de crocheter la serrure, tu vois, alors que de nuit avec une frontale.
Possible, c'est clair.
Donc ça, et puis il y a même une amélioration en termes de sécurité sur la sécurité routière, par exemple sur les passages piétons, il y a plusieurs exemples, mais le passage piéton, s'il est baigné dans la lumière, que tes phares éclairent rien parce que c'est déjà tout éclairé, tu vois pas du tout le passage piéton. Non. Alors que si tout est obscur et que tu as un passage piéton éclairé avec en plus des trucs réfléchissants au sol, tu vois, ça saute aux yeux. Donc il y a même eu des améliorations là, en termes de sécurité routière. Voilà. Que dire de plus
On aimerait bien que ce soit éteint un peu plus tôt encore.
Oui, alors là, ça va être de 1h à 5h pour commencer.
Pour les astronomes amateurs, 1h du matin, ça fait tard. Mais on n'est pas le centre du monde non plus. Mais c'est déjà pas mal.
C'est un bon pas.
Mais c'est sûr qu'après, tout ça ramène vraiment sur des questions. L'éclairage public, là, ça avait été. Je ne sais plus quel roi de France, c'est pas Louis XIV, non ? Ou qui avait, ou Louis XVI, je ne sais plus. Mais un roi de France qui avait commencé à tester ça. Et il y avait déjà toute une discussion sur la sécurité, sur les voleurs, sur tout ça. Et en fait, tout de suite, ça ramène à ça. En fait, dès qu'on parle de la nuit et d'éclairer la nuit, ça part dans des discussions qui sont en fait pas rationnelles du tout sur toutes ces peurs de sécurité. Surtout dans tous ces hameaux là où en fait les gens juste ils dorment en fait. Parce que de toute façon, la nuit, il n'y a pas de vie dans le. Il ne se passe rien.
Maintenant,
chacun
on a,
chez soi,
on a plein de frontages, plein de lumières. Légère aussi.
Il y a aussi plein de gens.
Il y a plein de solutions de lumière. Quoi.
Il y a ça, et il y a toutes ces lampes un peu détecteurs de mouvement que les gens mettent dans leur jardin aussi.
Tu vois, en plus,
il y a plein de gens qui ont ça. Tu sors, hop, tac, ça allume une petite loupiote.
Quand t'es là.
Mais oui, en discutant un peu, il y a plein de solutions qui peuvent être proposées dans la réduction, dans la lutte contre la pollution lumineuse. On peut éviter parfois l'extinction totale. D'une commune, ça peut être des zones, par exemple des zones où il y a quand même un peu d'activité la nuit qui sont éclairées, mais moins, par exemple. On peut faire ça, puisque si vous savez bien, quand vous sortez et que c'est la pleine lune, on y voit très bien, et même on peut lire. Vous pouvez essayer, vous prenez un livre avec la pleine lune, on peut lire. Et si on mesure la luminosité en électricité, on mesure ça en lux, la pleine lune c'est 0,2 lux. Et nos lampadaires, ils éclairent en moyenne entre 30 et 80 lux. Donc on pourrait avoir gardé des lampadaires, mais qui éclairent beaucoup moins. On sort d'une pièce éclairée pendant 5 minutes, on va pas très bien voir, et puis nos yeux s'habituent, et ensuite on voit très bien. On peut avoir, comme tu disais, des détecteurs de mouvement. On passe, ça s'allume quelques minutes.
Il y a plein de solutions techniques pour faire des choses. Après, il faut encore avoir envie de le faire.
Oui.
Bon, ça, de toute façon, ça avance parce qu'au final, ça va aussi dans un sens, on va dire, d'économie financière, d'économie énergétique, et qu'en fait, là, il n'y a pas trop de choix.
Bah oui, cette année, il y a beaucoup de communes qui s'y sont mises à cause des.
Donc, juste parce qu'en fait,
l'augmentation des prix de l'énergie.
C'est un peu, malheureusement, on va dire, dans l'air du temps, on va vers ça. Donc, les communes, elles font ça, même si elles ne sont pas forcément convaincues ou intéressées par le fait que les astronomes amateurs peuvent observer ou pas.
Non, si on regarde à grande échelle tout ce débat, l'argument contre, c'est la sécurité, et l'argument pour, c'est l'argent. Après, les chauves-souris et les papillons, les astronomes, passe après.
Donc ça, si
on veut synthétiser le débat public, c'est ça.
Ouais,
c'est sécurité contre économie.
En réalité, c'est pas forcément les. Tu l'as dit, la sécurité, en fait, ça n'a aucun rapport. Et oui. L'économie, bah oui, c'est un argument, mais moi, au-delà de ça, l'argument, bah oui. Il va plus loin.
Oui, je suis d'accord.
Il, par,
oui.
par rapport au fait de garder le contact avec oui, juste ciel, le oui. simple droit de base d'observer oui. le ciel, quoi. Oui, oui. Et que, enfin bon. Ok. Voilà. Donc voilà pour, donc, pour ces
coup,
histoires.
Bah, je remercie un... quand même la ville de Die de, voilà, d'avoir fait un pas dans le bon sens.
Oui, puis le parc naturel qui a son programme aussi ouais. Autour de ça, de sensibilisation à la pollution lumineuse, qui justement incite les communes du parc à... Enfin, incite ou contraint d'ailleurs.
Oui, selon là où elles sont.
Selon où elles sont. Ouais. Mm.
Il manquerait okay. plus qu'il y ait Grenoble qui s'y mette. Et puis on est
ouais, bon, alors là, sur Grenoble, il y a du boulot. Et en termes de pollution aussi.
Oui, je me disais, ouais, quand, ouais. quand on est à Valdrome, on rencontre Astrociel au mois de juillet, mm-hmm. il y a deux points de pollution lumineuse, deux halos, c'est Die et Grenoble au loin. Mm-hmm. Et du coup, maintenant, il n'y aura plus Die en seconde partie de nuit. Reste à voir avec Grenoble. Ouais. Mais il y a un événement depuis quelques années national, c'est le jour de la nuit, qui est au mois d'octobre, je crois, où c'est une journée voilà, pour parler. Pour ouvrir toujours ce débat sur la pollution lumineuse et la sensibilisation. Et dans la région de Grenoble, ouais, toute la région grenobloise, ils ont fait un mois de la nuit même cette année. Ils l'ont transformé. Donc peut-être que Grenoble aussi est en train de travailler sur ce sujet. Parce que je me demande s'ils ne sont pas eux aussi dans la zone périphérique de la réserve de ciel étoilé du Vercors.
Ouais, à voir. Pour gagner en qualité de ciel, il faut qu'il y ait tout le monde hein, qui s'y mette. Quoi. La lumière, elle se diffuse.
Ouais. Ok, eh ben, on va en rester là pour ce débat d'aujourd'hui sur la pollution lumineuse. C'est un débat de toute façon qu'on évoquera, qu'on a déjà évoqué et qu'on continuera d'évoquer dans cette émission parce que de toute façon, ça fait partie de notre environnement d'astronome. Ouais. Alors, on va passer à la dernière partie de cette émission. J'avais envie de faire un petit point, on va dire, d'exobiologie, c'est-à-dire de biologie extraterrestre. Bon, c'est un grand mot, mais disons que c'est de parler un peu de cette discipline et de voir un peu où en est la connaissance, ou en tout cas la recherche, sur ce que pourrait être une forme de vie extraterrestre, sur d'où vient la vie, enfin toutes ces questions en fait sur les origines de la vie et sa
recherche.
Qu'est-ce
qu'il faut pour en créer.
Voilà. Ouais. Alors rapidement, en fait, je veux juste vous parler de... Parce qu'en réalité, dans cette discipline-là, on est beaucoup dans la spéculation, oui. puisque jusqu'à présent, on n'a jamais découvert de forme de vie extraterrestre. Donc c'est voilà, ça laisse libre cours un peu à pas mal de théories, pas mal de choses, mais pas forcément très concrètes. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire, c'est déjà le fait que la plus ancienne trace de vie qu'on a sur Terre, elle date de 3,7 milliards d'années. Oui. Alors pour donner un repère, le Soleil aurait autour de 5 milliards d'années, la Terre 4,5. Oui. Hein, il aurait fallu 500 millions d'années pour se former. Et donc, les dernières traces de vie, 3,7 milliards d'années. Donc, c'est quand même pas si longtemps après la formation de la Terre. Oui, d'autant que... Oui.
Oui, souvent, on dit que la vie est apparue vite. Oui,
assez vite.
Aux échelles cosmiques.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
La vie est apparue vite dès qu'elle a eu l'occasion.
D'autant... Il a participé aussi à la transformation de la Terre.
Quoi. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bah, on le voit sur les atmosphères, sur tout oui, ça, ouais, c'est flagrant. Quoi. Et même sur la géologie de la croûte, sur la surface. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà. Ce qu'ils disent aussi, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais que probablement il y en avait, mais qu'elle était peut-être trop petite ou qu'elle manipulait trop peu de matière pour réellement laisser des traces qui puissent nous parvenir. Oui. Donc, en tout cas, on a quelque chose de très ancien. Alors, ils donnent, ces scientifiques, ces gens qui étudient l'exobiologie, ils ont, on va dire, sorti une sorte de définition d'un système vivant. Alors, je trouvais ça quand même intéressant de voir où en sont les chercheurs par rapport à la définition du vivant.
C'est un sujet épineux.
C'est un sujet épineux, ouais. Donc, il y a trois caractéristiques. La première, c'est qu'un système vivant est doté d'une membrane qui l'isole du milieu extérieur. Donc, il y a quand même un principe, on va dire, d'individuation. Ouais,
d'indépendance.
Hein, d'indépendance, ouais. Voilà, d'entité, quoi. Ouais. Il y a un truc. Ouais. Deuxièmement, ce système vivant est doté d'un métabolisme. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est capable de convertir l'énergie de l'environnement pour l'utiliser à ses propres fins, c'est-à-dire ben, survivre, se maintenir, et pour se reproduire. Donc, il y a encore une deuxième étape. Et ensuite, ce système vivant a une troisième caractéristique, c'est-à-dire qu'il peut évoluer. C'est-à-dire qu'il est doté d'un mécanisme de stockage de l'information qui va pouvoir transmettre de génération en génération à sa descendance. Mmh. Et que cette information a la propriété d'être capable de se modifier, de muter.
S'adapter à son environnement.
Voilà, de muter et, oui, que, et, du coup... et que les mutations les plus favorables à l'environnement seront celles qui seront sélectionnées. Donc là, on tombe sur Darwin en réalité. Oui. Donc voilà, voilà un système vivant, une membrane qui l'isole du milieu extérieur, un métabolisme et une capacité à évoluer. Mmh. Alors, bon... On peut méditer ça, parce que ça ouvre... Du coup, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant, etc., etc. Bon, là, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais, en tout cas, je trouvais que c'était matière à réflexion.
Oui.
Et en fait, je voulais vous parler surtout d'une expérience qui est un peu fondatrice dans ce domaine-là, qui a été faite par un certain Stanley Miller dans les années 50. Et qui travaillait, lui, à l'université de Chicago. En fait, il a voulu tester un peu cette hypothèse qui est toujours un peu d'actualité, de dire, voilà, on imagine un peu la composition de la Terre primitive, c'est-à-dire la Terre qui aurait, il y a 4 milliards d'années, en fait, hein, 1 milliard d'années après sa formation, donc une Terre quand même très jeune, très agitée.
Hyperactive.
Donc, qui serait principalement composée d'eau, avec un peu de méthane, de l'hydrogène et de l'ammoniac. Donc ce serait un peu le résultat de la chimie, de la formation de notre planète, avant l'apparition de la vie, qui, comme on l'a dit, a énormément modifié. Hein. Mmh. Il est évident que tout l'oxygène, il a quand même été apporté par la photosynthèse et donc par le développement des arbres, quoi, des organismes verts. Quoi.
Tous les sédiments qui ont fait les montagnes.
Et tous les sédiments qui ont fait les montagnes, etc. Voilà, tout ça. Donc ça a énormément façonné sur des milliards d'années, on peut le dire. Ça a complètement façonné notre environnement et notre nature. Alors donc lui, ce Stanley Miller, il prend deux ballons en verre, il met ces éléments-là dont j'ai parlé, l'eau chauffée, le méthane, l'hydrogène, l'ammoniac, et il balance des décharges électriques là-dedans. Pour lui, ça sert à simuler en fait l'apport d'énergie dans le système. Il dit que cette Terre, elle était jeune et donc il y avait une lumière solaire qui arrivait, qui était intense. Beaucoup d'ultraviolets, beaucoup de rayons X, beaucoup de choses comme ça. Des éclairs, parce qu'il y avait aussi énormément d'orages, de trucs. Et le volcanisme aussi qui apportait de l'énergie, de la chaleur, des trucs. Donc,
il n'y a pas de carbone encore au départ.
Il a mis du méthane. Donc dans le méthane, il y a du carbone. Les éléments chimiques sont forcément déjà là.
Oui.
Après, c'est la composition en molécules. Et c'est là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il mouline son truc. Et au bout de quelques jours, un certain temps, il obtient ce qu'il appelle une espèce de soupe des origines ou une soupe primordiale. Et il regarde ce qu'il y a là-dedans et il observe tout un tas de molécules, en fait, qui sont toutes les briques élémentaires de la chimie organique, toute la chimie du vivant. Alors, ce n'est pas vivant. Mais les molécules complexes du vivant ont commencé à apparaître de façon spontanée. Et ça, c'est quand même une expérience qui est intéressante. Quoi. De dire, en réalité, la nature toute seule, elle est déjà capable en fait, d'organiser toutes les briques de ce qui nous constitue.
Toutes les chaînes carbonées. Ouais.
Alors, là, il y a eu des observations plus récentes. On arrive un peu aux limites de ce qu'on sait faire, mais que j'ai trouvé intéressantes. C'est-à-dire que en allant plus loin dans cette idée un peu de nature qui organise elle-même sa complexité, ils ont observé dans le monde inerte, hein, c'est-à-dire dans des soupes comme ça un peu primordiales, ils ont observé des fonctions métaboliques, c'est-à-dire, mais hors du vivant. Donc un exemple, le cycle de Krebs. Ce n'est pas pour ceux qui ont fait un peu de biologie, le cycle de Krebs, c'est ce qui permet, c'est la série de transformations chimiques qui permet à une cellule de se fournir en énergie dans son environnement. Voilà, en gros, c'est ça. Okay. De choper dans son environnement des briques d'énergie et les utiliser pour elles-mêmes. Et donc, ils observaient, par exemple, que ce cycle de Krebs pouvait avoir lieu de façon cyclique, en fait. D'observer ce cycle-là en action hors vivant. Donc, c'est quand même hyper étonnant. Mmh. C'est-à-dire des fonctions du métabolisme qui, en fait, se mettent à
intégrer
des réactions, en fait, qui sont là, qui se passent, qui sont entretenues hors du vivant. Donc, ça pose plein de questions sur la frontière entre le vivant et le non-vivant. C'est des questions qui ont déjà été posées même par rapport à l'informatique, puisque c'est aussi une sorte de système. Il y a des questions d'information, de machin. Donc, on rejoint aussi des questions sur l'intelligence artificielle, sur plein de choses. Ça peut se porter voilà, à tout un tas d'entités. Voilà ce dont je voulais parler, parce que j'avais trouvé ça plutôt intéressant et sujet à réflexion personnelle. Voilà. Sinon, l'exobiologie. Oui, vas-y.
Je disais, dans les recherches spatiales, dans les prélèvements, les analyses chimiques. Des sondes là, sur les autres planètes, sur les comètes, sur les astéroïdes, on retrouve quand même une partie des éléments.
Oui. C'est clair, on peut retrouver des acides aminés.
Jamais en totalité.
On retrouve toutes ces briques, en fait. Et évidemment, l'hypothèse de dire, eh ben, en fait, le vivant, il vient de l'espace, il a été apporté par une comète, par une chose, elle est. De toute façon, pour l'instant, elle est ni.
C'est la panspermie cosmique.
Ouais, c'est ça. C'est vrai. ouais. Mais c'est cette espèce de truc de vie, de principe de vie qui essaimerait. Bon, voilà. Bon, là,
Sur la comète qui nous concerne, la ZTF, comme je disais, le vert est dû au carbone, au dicarbone. Et du coup, dans ce qui se fait ioniser, dans ce qui reste dans la traînée de poussière, il y a des composés organiques, je crois qu'ils appellent ça. Alors, c'est souvent ce que les journalistes traduisent par de la vie. Tu passes d'un journal à l'autre en téléphone arabe, tu passes de composé organique à vie. Mais. Ouais, donc du coup, voilà, sur cette comète, concrètement, elle peut disperser ça, elle disperse ça dans l'univers.
Ouais, d'autant qu'on sait que quand le système solaire était jeune, il y avait énormément plus de comètes,
oui.
Et qu'il y a eu un bombardement météoritique intense sur toutes les planètes.
En plus, c'est clair.
Voilà, donc tout ça, c'est libre cours à toutes les spéculations. En tout cas, ce que font réellement, en tout cas, les exobiologistes, à part élaborer des modèles, et ils essaient de se préparer un peu à la suite de l'exploration spatiale, qui est quand même à l'intérieur du système solaire, des endroits comme Io, comme Titan, comme Cérès, Europe, aussi, Europe, voilà, bon, un certain nombre d'endroits ou de satellites. Ou de petites planètes qui on a bien envie d'aller creuser sous les couches d'océans glacées pour voir un peu ce qui s'y passe. Bon, après, les moyens sont quand même limités, c'est compliqué.
Petit point d'actu, il y a la sonde JUICE qui va partir explorer Jupiter, qui est de fabrication européenne, qui est partie de France cette semaine pour la Guyane, et d'où elle décollera en avril.
Et
elle arrive sur Jupiter en 2028.
Voilà, donc déjà le temps de lancer la sonde, c'est 2028. Enfin, bon, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'ils sont dessus pour essayer de la concevoir. Enfin voilà, ça prend du temps, tout ça. Mais en attendant, ils pensent quand même à ça parce que c'est la suite. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils étudient, en fait les conditions de vie extrêmes sur Terre. Donc, que ce soit dans les cratères des volcans, que ce soit dans des grottes sous-marines très profondes, coupées de l'obscurité, ou que ce soit dans des fonds sous-marins très profonds, avec par exemple des écosystèmes qui se forment autour de cheminées volcaniques.
Ouais.
Parce que ces cheminées amènent aussi une chimie, amènent de la chaleur. Donc en fait, ça.
Ils peuvent se passer du soleil.
Ouais. Et là, je ne sais pas, je mentionne ce film-là que j'ai vu il n'y a pas longtemps de James Cameron, où il fait une espèce de reportage sur une expédition qu'il a montée. Vas-y.
Non, je disais, ouais, 5 minutes.
Une expédition qu'il a montée en fait, pour aller explorer les fonds sous-marins. Et il y a des images hallucinantes, on se croirait dans Abyss. Quoi. Et en fait, il embarque des exobiologistes et des astrophysiciens qui, eux, sont intéressés pour voir comment ils font, eux, pour faire leur collecte. Parce qu'ils savent qu'ils vont être dans des conditions un peu comparables s'ils se retrouvent dans l'espace pour essayer aussi de prendre des échantillons de choses. Et d'étudier voilà, ces formes de vie qui potentiellement du coup, pourraient se développer dans des conditions extrêmes ailleurs dans le système solaire. Puisque déjà sur Terre, on trouve des trucs quand même un peu étranges qui sont complètement... différent de nous dans la façon de s'alimenter en énergie, de se reproduire et de vivre dans son environnement, quoi. Voilà.
Très bien.
Pour ces histoires de soupe des origines, c'est pas la soupe aux choux, mais on n'en est pas loin. Donc, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter de bonnes observations, comme d'habitude.
Oui. On vous souhaite de pouvoir voir cette fameuse comète.
Ouais, essayer de la repérer, là, de trouver sa trajectoire. Franchement, aux jumelles, c'est assez gros quand même. Hein. Ça fait une jolie petite tache floue.
Donc, on rappelle la conjonction du 11 février avec Mars.
Ouais.
Ça sera vraiment à côté. Ça devrait être beau.
Yes.
Eh bien, profitez bien et puis on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.
Salut.